Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
William, 22 ans, habite à Paris, mais il est originaire de Nouvelle-Calédonie. Paul, 32 ans, nous écoute depuis Nouméa. Nicole, 51 ans, fait de même. Tous trois demandaient à Franck Ferrand de parler de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Nicole a mis l'accent sur le naufrage de la Monique en 1953, et c'est donc ce que je vais vous raconter dans un instant. Vous savez, ça fait des mois que je promettais une émission sur la Nouvelle-Calédonie à l'un de mes amis, un de mes meilleurs amis qui habite là-bas. Je suis ravi de pouvoir le faire en compagnie de Jean-Paul Marie, grand reporter, et en collaboration avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui nous a beaucoup aidé à préparer cette émission et que je remercie.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Simon qui voulait connaître les origines du code-barre.
Et il me semble que j'avais déjà répondu à cette question, mais enfin c'est volontiers que je vais y revenir. Pour le moment, je vous propose d'aller faire un tour à l'autre bout du monde, de l'autre côté de la planète.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En Nouvelle-Calédonie, depuis le 19e siècle, on ne compte plus les navires qui ont disparu, qui se sont échoués, ont été incendiés, ont subi toutes sortes d'incidents, dus notamment et très souvent aux grandes dépressions tropicales qui frappent la région. C'est bien simple, on appelle la Nouvelle-Calédonie le tombeau des grands voiliers. C'est ainsi que les capitaines au long cours ont pris l'habitude de surnommer cet archipel. L'association Fortune de mer calédonienne a répertorié plus de 230 naufrages et identifié formellement 71 épaves. On en a retrouvé moins d'une trentaine, entre parenthèses, sur les 71. Le naufrage dont je vais vous parler aujourd'hui a eu lieu dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1953 et la Monique dont nous parlons est un caboteur qui reliait l'archipel des îles Loyauté à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Un caboteur, autant dire, je veux pas être désobligeant, mais c'est une sorte de gros rafio hein, quand même. On a des photos qui montrent cette espèce de navire ventru, un peu à la manière des vieilles gabares européennes, chargé à ras-bord de toutes sortes d'impédimenta. Nous allons voir d'ailleurs ce qu'il y avait et quelle était la teneur de ce chargement. Ça explique sans doute le naufrage. Un naufrage quand même différent des autres. C'est le plus meurtrier de tous. 126 disparus, assez proche de nous quand même, hein, il y a à peine plus de 60 ans. Et c'est surtout une énigme, puisque à l'heure où je vous parle, personne ne peut dire exactement ce qui s'est passé, ce qu'il est advenu de la Monique. On n'a jamais tout simplement retrouvé son épave. Nous sommes donc le vendredi 22 juillet 1953. 22 juillet, ça veut dire qu'on est à quelques semaines seulement des célébrations du centenaire, puisque, vous allez voir, je vais en parler dans un instant, c'est en 1853 que la Nouvelle-Calédonie est devenue française. Donc, on est en train de préparer des célébrations qui doivent avoir lieu en septembre 1953. Ce caboteur appartient à la Société des îles Loyalty. Il quitte Nouméa pour aller rejoindre les îles Loyauté. Alors, il faut que vous imaginiez, vous avez la grande terre, vous avez l'île principale de Nouméa, avec son orientation nord-ouest-sud-est, et puis dans toute la partie nord, donc si vous voulez au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, vous avez, en partant de l'île la plus méridionale, Marais, Lifou, et puis une île qui est quasiment un atoll plutôt, qui est Ouvéa, là-haut, tout au nord. Beaucoup de caboteurs à l'époque font ce trajet dans les deux sens. Il s'agit évidemment de fournir du ravitaillement, hein. On emporte des marchandises. Et alors vous allez voir, ce navire, hein, ce caboteur, fait en quelque sorte office de transporteur en l'occurrence. La Monique est quand même un navire de belle taille, 32,70 m pour 7,20 m de large, donc quand même assez beau petit navire. Ses structures, ses cloisons sont en acier, bordées en pin d'Oregon. Sa carène, donc la partie immergée de la coque si vous voulez, est doublée en bois de totara. Je vous dis tout ça pour vous expliquer qu'on a quand même affaire à une embarcation pour le moins résistante. Quatre mâts de charge peuvent porter 4 à 5 tonnes chacun. La Monique est également équipée de 2 cales, 3 embarcations de sauvetage d'une capacité de 12 personnes chacune seulement. Ça aussi, c'est quand même un peu étonnant. Il y a 12 couchettes seulement à bord, ce qui veut dire que si vous transportez du monde en grande quantité, c'est seulement des passagers qui sont là pour faire de petites traversées et diurnes, bien entendu. La Monique est loin d'en être à son premier voyage. Elle a été lancée en 1945. En fait, c'était la marine américaine qui avait commandé ce bateau. Elle avait fait construire à l'époque pour combattre le Japon. Et elle avait pris l'habitude, cette Monique, d'effectuer des voyages pour relier les deux îles de la Nouvelle-Zélande. Et puis, depuis 1948, elle effectue donc des trajets entre les îles de la Nouvelle-Calédonie et puis donc cette société, les îles Loyalty. Avec les festivités du centenaire, évidemment, il y a énormément de commandes, il faut livrer toutes sortes de marchandises, donc le chargement d'une part et le nombre de passagers d'autre part sont nettement plus importants que d'habitude. Donc ce 22 juillet 1953, la Monique compte 101 personnes à bord, essentiellement des jeunes travailleurs de la région qui ont été recrutés pour participer à la cueillette du café. Il y a aussi pas mal d'Européens. Il y a 18 membres d'équipage sous la direction du capitaine Charles Holland qui n'a que 26 ans. Alors on dit, et tout le monde le répète, que c'est un bon marin. Certes, c'est un bon marin, mais c'est surtout, me semble-t-il, un jeune capitaine. La cargaison est très importante, je vous l'ai dit, 200 tonnes de fret, alors il y a là de la viande, des produits de première nécessité, du ciment, des tôles, du bois, enfin tout ce qui peut servir à différents chantiers, du carburant bien entendu, du courrier, on s'en doute. La Monique a subi quelques avanies dans les semaines passées. En septembre 52, le bateau s'est échoué au retour d'un voyage. Il a quand même fallu décharger 70 tonnes de marchandises pour permettre au navire de repartir. Et puis, en mars 53, le navire s'est trouvé au cœur de 2 dépressions tropicales et le bateau a dérivé. Il a eu du mal à échapper à la tempête. Vous comprenez pourquoi le capitaine Charles Holland n'est pas forcément très rassuré en ce 22 juillet 1953. Il n'empêche, son bateau est parti, son caboteur maintenant est en pleine mer et il va devoir faire plusieurs escales. De Nouméa, la Monique se rend d'abord à l'île la plus proche, c'est à l'île de Marée, à Tadine, puis à l'île de Lifou avec 4 escales. Et au cours de ces escales, on remplit encore le navire de quelques 1000 sacs de copra. Ça sert à faire de l'huile de coco. Il y a également des sacs de maïs, enfin, etc. Je ne vous parle pas de tout le chargement, mais c'est très important. Et voilà que le navire prend ensuite la direction, alors nettement plus au nord-ouest, de l'île d'Ouvéa. Au cours des différentes escales, près de 1300 sacs de copra sont à nouveau chargés, ainsi que les restes d'un navire qui a subi mauvaise fortune, 20 passagers supplémentaires. Vous me direz, il fait très beau, la mer a l'air d'huile, mais tout de même, c'est assez tout ça commence à devenir un peu inquiétant. Et puis, arrivé là-haut à Ouvéa, eh bien, on fait demi-tour et retour à l'expéditeur, si je puis dire. On repart vers Nouméa, bien entendu. L'Institut Géographique National, l'IGN, vient de terminer une mission pour établir une carte au 1/50 millième de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances. Et le chef de mission et un géomètre sont déjà à Nouméa. Seulement, il faut maintenant rapatrier tout le matériel qui a servi à cette mission. Et allons-y, on remet encore du matériel sur cette Monique qui est maintenant est chargée à ras-bord avec 423 nouveaux sacs de copra et des fûts, etc. etc. Là, il y a un des passagers qui nous dit que la Monique est chargée jusqu'à la passerelle. Dans l'après-midi et dans la soirée, le bateau quitte l'île de Lifou pour l'île de Marée. Vous voyez qu'on se rapproche de Nouméa. On s'en rapproche, mais évidemment, on n'y arrivera jamais.
de l'ouverture du vaisseau fantôme de Wagner sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, en juillet 1953, à bord du caboteur La Monique.
Alors La Monique, là on est le vendredi 31 juillet 1953. À 8h45, le capitaine transmet une information à la station de Nouméa, station radio. Information inquiétante. Chargement à bord, 2750 sacs, nombreux paniers et caisses comme jamais nous n'en avons vu. C'est le capitaine lui-même qui dit ça. Et d'ailleurs, il y a un gendarme à bord qui dit « On est très mal sur ce bateau, c'est trop chargé, il me tarde d'arriver ». À 10h30, la Monique arrive donc à Marée. On est l'île la plus méridionale avant d'arriver à Nouméa, à la Grande Terre. L'état de la mer, une panne au moteur tribord, la charge excessive du caboteur, tout ça explique le retard de 4 heures sur l'horaire initial. Alors là, on se dit, ils vont décharger un petit peu de... Non, pas du tout. On continue à charger. Et allons-y, 130 paniers d'igname, 50 caisses de légumes et de fruits, soit près de 8 tonnes hein, quand même. Alors c'est vrai que le navire décharge une jeep, une remorque, des sacs de copra, mais enfin bon, quand même, ça reste très très chargé. Et à 14h15, on fait monter 22 nouveaux passagers à bord, ce qui fait que maintenant il y a 126 personnes sur la Monique, 108 passagers, 18 membres d'équipage. L'embarcation devrait être à Nouméa pour le lendemain à 8h, c'est en tout cas ce qui est prévu. La visibilité est excellente, le vent d'est est faible, il n'y a qu'un problème. Et c'est le même depuis 2-3 jours, vous l'aurez compris, c'est cette charge, pour pas dire cette surcharge de la Monique. Et du reste, je vous ai dit qu'il y avait des embarcations de secours, hein, des canots de sauvetage. Alors, certes, déjà, ils ne sont faits normalement que pour 12 personnes. Je vous ai dit qu'on était 126, là, maintenant. Mais en plus, les canots, ils sont pleins à ras-bord de paniers de coco. Sur le pont, les objets qui ont été amoncelés dépassent les 2 mètres de hauteur. Vous voyez un petit peu. La Monique transporte maintenant 254 tonnes, avec un maximum autorisé de 250 tonnes. Disons qu'on est à la limite, vraiment la limite maximale. Et tout le monde est surpris, tout le monde est inquiet. Voilà ce que raconte un gendarme de Tadine. J'ai pu me rendre compte que tout le pont, il racontera ça après la disparition, j'ai pu me rendre compte que tout le pont était encombré de marchandises, des sacs de copra, des paniers de légumes, des caisses de toutes sortes. Les passagers européens s'étaient casés tant bien que mal dans les cabines et le couloir central. Les passagers indigènes étaient au-dessus de la cale avant, sur des sacs de copra, sous une toile de tente qui avait été installée juste là pour la circonstance. Vous voyez un petit peu. Et il y a un autre témoin qui raconte, le bateau était surchargé. Tout était certes arrimé, mais il y avait déséquilibre, car la Monique gîtait fortement sur le bâbord, c'est-à-dire, pour reparler pas du tout en termes marins, qu'elle penchait sur la gauche, et qu'elle penchait même singulièrement. Nous l'avons vu partir, dit ce témoin, avec de l'inquiétude. Il faisait beau, la mer était calme, mais le bateau avait vraiment du mal à tenir son cap. Il était presque obligé de tirer des bords. Vous voyez à quel point c'est difficile pour ce jeune capitaine de maintenir la Monique sur son axe, étant donné la surcharge et le déséquilibre du chargement. À 16h14, la Monique appelle la radio de Nouméa. Elle affirme que le navire aura de l'avance. Le ciel est dégagé et c'est vrai qu'on aperçoit déjà la Grande Terre là-bas à l'horizon. Un peu plus d'une heure plus tard, à 17h30, on voit toujours la Monique depuis Marée, hein, c'est-à-dire que on a vu le navire partir, il est encore, la courbure de la Terre certes fait que l'horizon est toujours limité en mer, vous savez ça, mais on continue néanmoins à apercevoir le petit point de la Monique à l'horizon, à 17h30. Dans la soirée, la météo continue à être bonne, la lune est descendante, une bonne lune qui éclaire bien la mer. Il y a quelques petits grains qui sont signalés sur le sud-est de la Nouvelle-Calédonie, mais a priori, sur un plan météorologique, rien de bien méchant. Le lendemain matin, le samedi 1er août, il est plus de 8 heures à Nouméa et la Monique, qui devrait arriver d'une minute à l'autre, n'apparaît toujours pas à l'horizon. Alors là, évidemment, étant donné qu'on sait les difficultés, le chargement, etc., on commence à se poser des questions, on commence à s'inquiéter. Et la station côtière de Nouméa, radio, va envoyer un certain nombre d'appels. 8h05, alors on envoie un appel, « Allô, la Monique, est-ce que vous répondez ?» etc. Absolument aucune réponse, ça ne bouge pas sur l'océan. 8h13, 8h20, 8h30, autant d'appels, autant de silence radio, personne ne répond. À 10h, un dispositif d'alerte est mis en place, un petit avion et deux navires sont affrétés, mais à ce moment-là, le temps se gâte, toujours aucune trace du navire, évidemment. Seuls les plus optimistes pensent que la Monique n'a pas coulé. Je dis bien que ce sont les plus optimistes, car pour ceux qui sont un peu réalistes, ils se doutent bien qu'il s'est passé des choses extrêmement graves. Alors, les recherches sont lancées. Ça va être d'abord des recherches en mer qui se poursuivent, recherches aériennes bien entendu, avec de gros moyens mis en place. Nous y venons dans un instant.
Agir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions, chers auditeurs. Il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur le naufrage de la Monique.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand au 1er août 1953 à Nouméa où l'on attend le caboteur La Monique.
Et on peut attendre, rien ne se présente, on a lancé, je vous l'ai dit, des moyens, des secours hein, très importants, recherche en mer, recherche aérienne, on a même fait appel aux îles Fidji, qui sont une colonie britannique à l'époque, pour obtenir de l'aide de l'Air Rescue Service, mais rien n'y fait, on ne trouve rien. Les moyens techniques sont pourtant impressionnants. Un navire est équipé d'un radar, c'était l'époque où c'était les tout premiers radars extrêmement sensibles qui permettaient de repérer le moindre obstacle, même à distance. Hein. Le moindre banc de poissons était repéré dans un rayon de 100 000 marins. Or, on ne repère rien du tout. Et les recherches comme ça vont durer non pas 2, 3 ou 4 jours, ça va durer une semaine entière avec quelques petits éléments qu'on a retrouvés ici ou là. Un navire a repéré notamment une tache d'huile en surface évidemment, une tache d'huile qui fait 150 mètres sur 40 environ. Ça c'est toujours très inquiétant, mais rien ne permet d'affirmer que cette huile soit originaire de la Monique du reste. On a également récupéré un fût vide. On l'a récupéré à marée haute avec une inscription « Owen James Luengofi Lifu ». Là aussi, impossible de savoir s'il est en provenance de la Monique. Trois autres seront retrouvés quelques jours plus tard. Quand même, vous avouerez que c'est un faisceau d'indices. Hein. Ce sont des éléments qui concordent, malheureusement. Des témoins également vont affirmer avoir aperçu un soir, depuis les hauteurs de Nouméa, des fusées vertes et rouges que certains ont comparées à des fusées de détresse. Mais de là à affirmer que ce sont les fusées de détresse de Nouméa, un mois plus tard, on fera même appel à une radiesthésiste. Vous savez, quand on ne sait vraiment plus à quel sein se vouer, une sorte de magnétiseur, si vous voulez. Et cette dame affirme, alors je la cite, elle dit « La Monique se trouve par 68 mètres de fond, allons bon, ayant dérivé de 10 000 marins en direction de l'île des Pins. » Alors on va dans la direction de l'île des Pins et on commence à... Donc là on est à l'extrême pointe de la Grande Terre et on fait des sondages et on ne trouve rien évidemment, même par 68 000 mètres de fond. 10 jours après la disparition présumée du caboteur, un communiqué a été publié pour annoncer sa perte, même si pour l'instant on n'a évidemment aucune preuve, aucun élément très, très tangible. Le 10 septembre, le comité des familles et amis des disparus de la Monique est créé. Donc les familles ont attendu, elles ont espéré autant que possible. Mais là, cette fois, bien sûr, elles se réunissent et elles commencent à s'organiser. Et le 29 septembre, la Marine nationale publie ce fameux compte-rendu, je cite, « L'opinion de la Marine nationale demeure que l'infortuné caboteur repose sur le fond, quelque part entre les Loyautés et la Nouvelle-Calédonie, par des profondeurs de 1000 à 2000 mètres où l'on n'a aucun moyen de détection. Évidemment, vous pouvez envoyer là tous les radars que vous voulez, surtout à cette époque, on est en 1953. Aujourd'hui, vous savez, on a des petits plongeurs qui permettent de descendre extrêmement à des profondeurs très très importantes. Ce n'est pas le cas à l'époque, mais de toute façon, ce sont des opérations qui coûteraient des fortunes, évidemment. Plus le temps passe, et moins il y a d'espoir, c'est évident. Après 3 mois, on va quand même retrouver une bouée de sauvetage, une bouée peinte en rouge et blanc, avec l'inscription Monique Nouméa, et qui a été retrouvée au nord de la Nouvelle-Calédonie. Cette bouée, elle se trouve sur la couverture d'un ouvrage publié chez Fortune de mer calédonienne. Un ouvrage qui s'appelle Le destin tragique de la Monique, justement, et qui nous a été confié par la maison de la Nouvelle-Calédonie. C'est terrible, hein, une petite bouée, voilà tout ce qu'il reste de une bouée de sauvetage. Voilà tout ce qui reste de la Monique. Évidemment, tout ça laisse entendre qu'il y a eu, évidemment, une tragédie. Une information a été ouverte, formation contre X, fait inculpé d'homicide involontaire sur les passagers et les membres de l'équipage du motorship La Monique, voilà exactement l'intitulé de la plainte. Depuis le 31 juillet 1953, toutes sortes de rumeurs ont circulé, on a parlé d'un séisme sous-marin, et c'est vrai que dans la région il y a des séismes, ça c'est incontestable. On a parlé d'une explosion, le navire aurait percuté une mine flottante, on a parlé d'un dérèglement du compas, comme dans le triangle des Bermudes, on a parlé d'actes de piraterie, pourquoi pas. Ce qui paraît le plus probable aux spécialistes, c'est que le navire ait eu une panne de machine ou de moteur. Or, à partir du moment où il n'y a plus de moteur pour entraîner le navire, lorsqu'il est hyperchargé comme il était et complètement déséquilibré, alors on n'est pas à l'abri de n'importe quoi. Pour peu qu'il y ait un peu de mer, vous savez, il y a un gros grain, il n'y a plus de moteur, il y a un gros grain, une mauvaise coordination des passagers qui, comme vous l'aurez compris, n'a pas de toute façon la liberté de mouvement sur le navire et peut se déporter d'un côté ou de l'autre. Pour peu que les gens aillent du mauvais côté, le navire peut se retourner littéralement comme une coque et partir de là, il aurait sombré, hein, il aurait vraiment coulé comme un fer à repasser. Ça paraît très probable. Il faut dire que aujourd'hui encore, le souvenir de la disparition de la Monique est gravé dans la mémoire des Néo-Calédoniens. Ça fait partie des choses dont on parle. Une stèle du souvenir a été érigée à Tadine en 1978, au moment du 25e anniversaire de la disparition du caboteur. Et là, beaucoup plus près de nous, pour le 60e anniversaire de la tragédie, c'était donc le 31 juillet 2013, on a ouvert on a inauguré une nouvelle plaque. Il y a eu toutes sortes d'expéditions qui ont été menées depuis pas mal d'années maintenant. Pour l'instant, et à l'heure où je vous parle, aucune n'a jamais donné de résultat. Bonjour Jean-Paul Marie.
Bonjour.
Alors la Monique est un peu notre porte d'entrée en Nouvelle-Calédonie, si je puis dire. On va revenir pendant quelques instants sur cette tragédie et puis surtout, nous allons revenir sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et l'histoire des rapports de cette terre extraordinaire avec la France.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La Nouvelle-Calédonie qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Jean-Paul Marie, grand reporter et écrivain. Et vous allez revenir, bien évidemment, sur le naufrage de la Monique.
Vous la connaissez bien, cette Nouvelle-Calédonie, pour y avoir beaucoup vécu, vous, Jean-Paul Marie.
Disons que j'ai parcouru, oui. Oui. J'ai parcouru avec passion.
Oui. C'est un très beau territoire. Moi, je ne connais pas. C'est pas faute d'y être très régulièrement invité, pour tout vous dire. J'irai, je finirai par y aller, mais il y a combien 20 heures d'avion, c'est ça? Donc, c'est pas.
Oui, quand on y allait en 84, il y avait 32 heures d'avion.
Oh là là, vous vous rendez compte?
Bien, oui. Et en plus, comme c'était agité, il y avait toujours 200 ou 300 CRS dans l'avion, donc c'était intéressant. Mais on faisait escale partout.
Alors on va revenir évidemment sur cette période sensible qui était celle du milieu des années 1980 avec toute cette affaire de l'indépendantisme, etc. Je vais revenir moi dans un instant sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en quelques mots pour resituer les choses dans l'esprit de nos auditeurs. Simplement un mot de ce naufrage de la Monique. Je disais que c'est encore une question sensible sur place, on en parle de temps en temps.
Alors il y a plusieurs choses. D'abord sur l'accident lui-même. Moi, en écoutant cette histoire que je connaissais mal, je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes ces histoires que je traite en ce moment, d'ailleurs, pour un livre, sur les naufrages des clandestins.
Oui, ça fait un peu penser à ça.
Ah oui,
c'est des navires surchargés.
Des navires en mauvais état, absolument surchargés, avec trop de personnes, et qui ont des avaries, des pannes de moteur et des choses comme ça, et qui disparaissent d'un coup. Et effectivement, pendant que vous racontiez cette épopée, je voyais une panne de moteur, parce que s'il y a eu des pirates, le capitaine aurait envoyé des messages. Bon, je voyais une panne de moteur, je voyais des gens qui s'inquiétaient, qui passaient d'un côté à l'autre du bateau.
Pour voir peut-être.
Pour
même.
Voir et ce oui, qui voilà. se passait, ou bien quelque chose qui a cogné. Et tout d'un coup, le bateau qui se retourne
et
d'un
voilà,
coup,
et, voilà.
et qui coule comme une pierre au fond de l'eau. Avec, et ça, ça arrive assez régulièrement en Méditerranée.
D'autant donc plus, sur un abîme de 2 mètres. Quand on voit les photos de la Monique, les flancs sont très échancrés, comme toujours pour ces navires de chargement. Oui. Pour faciliter le chargement, voilà. les bords sont bas, sont voilà. rabaissés c'est en ça. Quelque sorte. Hein,
donc il suffit qu'on se penche d'un côté avec un mouvement de passager et tout bascule.
Et c'est ce qui est peut-être arrivé.
Et je pensais aussi, alors on parle de Nouvelle-Calédonie, je me disais, effectivement on ne peut pas oublier quelque chose comme ça. Pourquoi ? On ne peut pas l'oublier, il y a eu beaucoup de naufrages, mais 126 personnes qui disparaissent en une seule fois. Et chez les Kanaks, en Calédonie, la mémoire est très forte et la terre est très forte. Et quelqu'un qui n'est pas enterré dans sa terre natale, c'est quelqu'un qui erre comme un fantôme, parce que chez les Kanaks, les trous dans l'eau ne se referment pas, jamais.
C'est très joliment dit. Alors ces Kanaks, ils étaient... tranquillement chez eux quand James Cook en 1774 découvre du point de vue occidental cette grande terre et l'île des Pins. Il choisit d'ailleurs le nom de Nouvelle-Calédonie, c'était comme ça à l'époque, on était nouvelle quelque chose, Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Zélande, bon ben là en l'occurrence c'était la Nouvelle-Calédonie puisque lui-même était britannique. À l'époque il ne voit que des huttes Kanaks précisément et des palétuviers, il y avait à peu près que ça dans sur cette Nouvelle-Calédonie. Le premier français à y mettre le pied, c'est le célèbre chevalier d'Entrecasteaux, on est là au moment de la Révolution en 1793. Il a abordé Entrecasteaux tout à fait par hasard sur l'île des Pins, alors qu'il devait retrouver la trace de l'expédition conduite par La Pérouse. Faut pas oublier qu'à l'époque, on était obsédé par cette histoire de la disparition de La Pérouse et de ses deux navires. Et c'est Joseph-Antoine de Bruny qui se serait arrêté aux îles Loyauté, même si, en vérité, la découverte en est attribuée officiellement au grand navigateur Jules Dumont-Durville, dont j'ai eu l'occasion de parler l'autre matin chez Thomas Soto. Dumont-Durville, là, on est en 1827, à l'époque de la Restauration. C'est l'époque des premiers échanges. Quand je dis échange, un peu, alors c'est du troc. C'est-à-dire qu'on va troquer des verroteries et des petites choses qu'on donne aux Kanaks contre du bois de santal, contre des bois précieux, des choses très importantes qui vont faire de cette Nouvelle-Calédonie un véritable centre d'intérêt pour les puissances occidentales, et surtout qu'on est à l'époque en pleine concurrence avec les Britanniques, bien entendu. C'est ce qu'on a appelé la course au drapeau. Et dans les années 1840-1850, c'est à qui va récupérer telle île, tel territoire, notamment dans ce Pacifique très important. Il ne faut pas oublier que les Britanniques sont déjà en Océanie et qu'évidemment, ils veulent étendre leur empire sur le Pacifique, et le rôle de la France à l'époque, c'est de les contrer partout. Et là, la Nouvelle-Calédonie, j'ai envie de dire, on y met un pied, on y tient, on y reste. Alors, il faut des prétextes, évidemment, pour s'emparer physiquement de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, le prétexte, on va le trouver en 1850, dans le massacre. On est là au nord de la Grande Terre. Massacre de plusieurs officiers et hommes d'équipage de la corvette française L'Alkmen, qui avait été envoyé pour essayer de repérer les lieux, pour en faire un bagne. Parce qu'à l'époque, les Français se disaient « Cayenne, c'est très très compliqué, et puis surtout, le climat est épouvantable. » Si on pouvait avoir un bagne en Nouvelle-Calédonie, ce serait l'idéal. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la guerre de Crimée à ce moment-là, à partir de 1853. Les Anglais sont les alliés des Français. Hop, on en profite pour prendre littéralement possession de la Nouvelle-Calédonie qui est déclarée française le 24 septembre 1853. Les 21 coups de canon au nom de l'empereur Napoléon III, etc. À ce moment-là, la Nouvelle-Calédonie est donc française. C'est pour ça qu'au moment du naufrage de la Monique, ça faisait 100 ans exactement.
C'est deux disparitions quand même, la Pérouse et...
Oui, et entre autres, d'ailleurs, parce qu'on pourrait en citer un certain nombre d'autres. Alors, cette Nouvelle-Calédonie, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé à la fin du 19e, au début du 20e siècle, le début de l'exploitation d'un certain nombre de richesses. Il y aura le nickel, ça, on va y venir ensemble, évidemment, dans un instant. La Nouvelle-Calédonie, qui était une colonie, devient un territoire d'outre-mer en 1946. Hein, c'est la grande époque de l'Alliance. On va créer ce territoire d'outre-mer. On supprime le régime de l'indigénat. Il faut expliquer ça. Qu'est-ce que c'est que ce régime qu'on enlève ?
Et parce que Jean-Paul Marie. Le régime de l'indigénat, c'est un régime d'inégalité consacrée, quoi. Donc il faut très longtemps avant que justement le premier conseil général soit élu au suffrage universel. Il faut attendre 1953. Il faut attendre 1932 pour qu'on permette l'accession des anciens combattants kanaks qui se sont battus en 14-18 à la citoyenneté française. Donc on est peu à peu en train de sortir à reculons, avec lenteur.
D'ailleurs, 53, c'est le naufrage de la Monique. Le suffrage universel, c'est même encore un peu après, c'est en 57. Voilà. Hein, c'est très tard.
Hein. Ah, oui,
On avance comme ça, peu à peu. Quels sont les rapports entre les deux populations, si je puis dire? Parce qu'on peut parler de deux populations maintenant.
Oui,
en
on peut parler de deux populations. Maintenant, il y en a plusieurs, il y en a trois.
Oui, d'ailleurs,
plusieurs.
En fait,
mais ce que vous avez raconté est très important. La Calédonie, d'abord, c'est un bagne. Et ce bagne va marquer, comme les bagnards qu'on envoie en Australie, ce bagne va marquer la personnalité profonde de la Nouvelle-Calédonie. On envoie des gens dans des conditions extrêmement dures. Hein. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des histoires de bagnards.
Mais ce n'est pas des rigolos qui débarquent là-bas. Hein.
Non, mais qu'on attache à leur banc de pierre et qui se percent les yeux avec une épine d'acacia pour pouvoir essayer de sortir de là. Donc, quand on fait ça, c'est qu'on est vraiment réduit à une extrémité. C'est un bagne, donc c'est une vilainie. Ce sont des bagnards et les Calédoniens. Les Caldoches sont des descendants de bagnards, mais...
Pas tous, d'ailleurs.
Mais, non, pas tous, parce qu'ensuite, il y aura une immigration très forte. Mais, ce ne sont pas n'importe quel bagnard. C'est-à-dire qu'il y a aussi les gens de la commune. Il y a Louise Michel et des gens comme ça. Ce qui veut dire que c'est un bagne noble, en partie.
Politiquement marqué, mais ce ne sont pas des droits communs, comme on
dit. Il y a des droits communs et il y a des politiques.
C'est
et
ça.
Tout ça fait qu'on ne peut pas dire, bon voilà, c'était des bagnards, c'était des criminels, et descendants de Caldoches sont descendants de ces gens-là. Non, il y a aussi des gens qui sont descendants de cette composante politique qui fait l'âme aussi de cette Nouvelle-Calédonie.
Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a un lien entre cette population blanche caldoche et la population indigène kanak?
Oui, et ce lien est simple, c'est celui de la prédation. C'est-à-dire que vous parlez, comment est la Nouvelle-Calédonie? Vous ne la connaissez pas. Très bien, alors il faut vous imaginer un autre monde, c'est-à-dire une île très grande, de 500 km de long, avec ses îles Marais, Lifou, Ouvéa, qui sont assez lointaines quand même, avec un paysage exotique, tropical, magnifique. Mais c'est une île qui est coupée en long par le milieu, avec une partie de plaine où les Caldoches vont s'installer, où ils vont faire de l'élevage, un peu à l'australienne, avec des chevaux, des cow-boys, des lassos, etc., etc. Et donc ils prennent cette partie-là, ils volent la terre aux Kanaks qui habitaient là. Et donc les Kanaks sont rejetés, renvoyés vers la partie montagneuse.
Montagneuse et forestière.
Et forestière, oui, ils vont planter des taros, des ignames, etc. Mais quand vous survolez la Nouvelle-Calédonie, vous voyez un paysage de rêve. C'est un peu comme la Polynésie, c'est-à-dire avec des lagons, des couleurs vertes, des forêts profondes, un vert qui n'est qu'une nuance du noir, une plaine qui est très belle et très large. Donc on est dans un monde un peu, on est ailleurs, quoi.
Oui. On est même, on peut le dire, pour nous, on est au bout du monde, ça c'est incontestable.
Alors il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'on est à 18 000 km
de
la métropole, et là-bas il y a 10-11 heures de décalage horaire, ce qui fait qu'on a vraiment le sentiment d'être de l'autre côté, aux antipodes, et que quand vous voulez appeler Paris, par exemple, pour faire une radio,
réfléchir,
c'est toujours compliqué. On est vraiment ailleurs, et on n'est pas loin de l'Australie, qui est une forte... un aimant comme ça, très fort, qui essaye de pénétrer et qui pénètre un petit peu, qui influe sur la Nouvelle-Calédonie. Alors, mais en même temps, vous avez cette composante kanak qui est d'une force incroyable. On y reviendra.
Du point de vue de la géostratégie et de la richesse territoriale, il y a évidemment aujourd'hui, et c'est ce qui rend la Nouvelle-Calédonie si importante pour la République française, il y a les fonds marins qui sont associés à la possession de tous les territoires. Donc ça donne des milliers, pour pas dire millions de mètres carrés de fonds marins, oui, avec les fameux nodules polymétalliques, voilà, etc. Mais à l'époque, dans les années 50-60 surtout, il y a le début de l'exploitation du nickel. Ça, c'est la grande richesse du territoire calédonien, en fait.
Oui, parce que le nickel est découvert en 1864 par un ingénieur, Jules Garnier. Et on va comprendre peu à peu que ce nickel, c'est un bloc de nickel. On l'appelle le caillou.
Incroyable.
Et alors, quand vous survolez la Nouvelle-Calédonie ou quand vous allez vous promener en voiture, vous voyez cette terre extrêmement rouge qui est ouverte, vraiment comme des carrières, hein, avec une espèce de montagne grignotée avec des immenses engins. Et il y a là, et d'ailleurs depuis 1984, on a encore découvert d'autres endroits et exploité, c'est une énorme mine de nickel. Il y a là de quoi vraiment faire la richesse non seulement de l'île, mais de plus que ça. Il y a d'ailleurs des consortiums qui s'y intéressent. Donc il va y avoir un, comme vous le disiez, un avantage géographique. Il va y avoir cette espèce de plateforme maritime qui permet d'avoir, bien sûr, les nodules, etc., mais aussi un territoire. Il va y avoir la situation, il y a la situation pas loin de l'Australie, à 18 000 km de la France, il y a le passage en Nouvelle-Calédonie. Et pendant la guerre de 1939-1945, la Nouvelle-Calédonie va servir de porte-avions pour la guerre du Pacifique en tant qu'escale.
Quasiment au sens propre du mot, hein, d'ailleurs.
Voilà, oui. Exactement. Donc la Nouvelle-Calédonie n'est pas une île tropicale qui végète et qui dort sous la lune, même si elle est très belle, c'est quelque chose qui a une puissance et un potentiel extraordinaire.
Au tout début des années 1970, c'est la chute des cours du nickel, et ça, c'est le début des grands désordres en Nouvelle-Calédonie. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous recevez cet après-midi Franck Ferrand, Jean-Paul Marie, grand reporter et écrivain, pour nous parler de la Nouvelle-Calédonie.
Depuis quand, Jean-Paul Marie, peut-on dire que la population européenne, caldoche, et la population mélanésienne, kanak, s'opposent en Nouvelle-Calédonie ?
Depuis toujours. Depuis toujours. Je vous rappelle que, on parlait du ban tout à l'heure, mais en 1878, il y a une insurrection des kanaks contre la colonisation qui fait 1200 morts. Kanaks. On tue 1200 kanaks. Donc là, on travaille à l'ancienne, quoi. Et rappelez-vous l'histoire de la tête d'Ataï, le chef d'Ataï, un grand chef, qui est celui qui a organisé la résistance, qui est tué pendant les combats. On lui coupe la tête et on l'envoie à Paris. Et puis rappelez-vous l'exposition universelle où on envoyait des kanaks comme
C'est un peu comme quand on envoyait la tête des rebelles au sultan de Constantinople, voilà, dans l'Empire ottoman.
Voilà. Et cette tête d'ailleurs qui est en train de revenir en Calédonie, c'est un long processus, on ne va pas en parler maintenant, mais la tête d'Ataï, c'est tout le symbole un peu de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la colonisation, l'extraction des richesses, la dépossession des kanaks, et puis maintenant on y revient. Il y a eu aussi l'exposition universelle où on a envoyé des kanaks.
Oui, cette fameuse affaire, qui sont allés l'exposition coloniale.
Oui, pardon, aboyer de façon sur ordre pour montrer que c'était des canibales.
Alors qu'ils étaient étudiants à l'université.
Et catholiques de préférence, et monogames. Donc on les a envoyés jouer des cannibales, etc. D'ailleurs, on a même prêté à d'autres musées. Donc on part de là. Mais vous savez, chez les Kanaks, la chose est cumulative. Elles se sédimentent. C'est-à-dire qu'il faut du temps avant que les choses débouchent sur l'action. C'est des gens qui... La grande richesse et la grande découverte de l'Académie, ce sont les Kanaks. Parce que ce sont des hommes que nous ne connaissons pas. C'est un type d'être humain qui est... pas très loin de nous, qui est même très proche et à la fois très loin. C'est-à-dire...
Une organisation sociale très très différente, très collective en fait.
Très collective. La terre, c'est vraiment... Ils ont les pieds dans la terre. Et il y a des chemins rituels, un peu comme les songlines des aborigènes. La parole, quand on n'est pas d'accord, on se réunit dans une case, on parle toute la nuit et les Kanaks disent qu'il faut mâcher et remâcher la parole. Et au petit matin, on n'a même pas besoin de prendre une décision... Elle émane de la discussion. Moi, je me rappelle d'hommes importants, parce que je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie pour faire un reportage.
Oui, au moment où c'était vraiment
même
là.
Même un petit peu avant, je suis arrivé en 83 pour le meurtre de deux gendarmes à Coindéo. Et donc, je voulais voir les responsables kanaks, et il y avait un mariage. On m'a dit, allô au mariage, ils y sont tous. Alors, je suis allé au mariage, ça se passait dehors. J'étais sur le gazon, j'avais 15 heures de décalage horaire. Deux nuits sans dormir, je me suis endormi. Je me suis réveillé à côté d'un homme qui m'a dit... Je lui dis, je suis désolé d'avoir dormi. Il me dit, non, un homme qui dort est un homme en paix. C'était Jean-Marie Djibaou.
Ah.
Et voilà, il était à côté de moi, il attendait que je me réveille pour faire l'entretien. Ensuite, j'ai vu Yewene, son assistant.
Oui, ce sont des noms qui disent quelque chose à nos auditeurs, j'imagine.
Tous les deux étaient assassinés à OVA. Et Yewene m'a commencé à me dire, ah, tu sais, je viens de Marais. Tu connais ? Je dis, non. Il me dit, Marais, un jour, je t'emmènerai. C'était la première fois qu'on se rencontrait. À Marais, on appelle les vagues. Je dis, comment ça, on appelle les vagues ? Il me dit, oui, tu verras, on rentre dans l'eau, il y a un rocher, on tape sur le rocher et les vagues se forment. À Marais, on appelle les vagues. Voilà mais les débuts des discussions politiques.
Pas dire poétiques.
Profondément politiques, c'est-à-dire leur vie totale que j'ai eue avec ces hommes-là. Et d'ailleurs, quand il y a eu une réunion ensuite pour savoir si vous en allez participer ou non au référendum, il y avait toute la presse en 84-85, on était là pour parler politique. Jean-Marie Djibaou m'a pris par la main et il m'a dit... Tu sais ce que je vais faire ? J'ai dit non, je ne sais pas, bien sûr. Il m'a dit, écoute, moi je ne savais pas non plus, puis cette nuit je suis allé tu connais la forêt des ancêtres ? J'ai dit oui, celle qui est à côté de chez vous, Yangen. Bon, Yangen c'est Apocalypse Now, hein, des blocs de basalte noir qui tombent dans l'eau, une végétation verte. Et il m'a dit, je me suis allé...
Là, on penserait plutôt à Avatar dans ce que vous racontez.
Mais en plus doux. Et il m'a dit, je suis allé me promener dans la forêt des ancêtres et j'ai écouté les ancêtres me parler. Les ancêtres, c'était quand même le responsable politique du FLNKS qui allait prendre une décision politique nationale. C'est comme ça que ça se passe avec les Kanaks.
Ce FLNKS, c'est le mouvement indépendantiste Kanak, lui-même issu du front indépendantiste et avant ça du Parti de la Libération Kanak. Hein.
Oui.
Et combien de Kanaks représente-t-il ce FLNKS au milieu des années 80? Est-ce que c'est l'émanation de toute la population Kanak ou est-ce que ce sont quelques meneurs, si je puis dire?
Non, c'est un mélange de MNA et de FLN, c'est-à-dire c'est un mélange de c'est issu de l'Union calédonienne de Maurice de Lenormand qui est un blanc qui a pensé tout ça, mais c'est en même temps c'est repris et c'est ressenti par tous les Kanaks, c'est-à-dire que tout ce que va dire le FLNKS va être vraiment profondément ressenti par les Kanaks, ce qui fait que Éloi Machereau, quand il casse l'urne, qui est l'image qui provoque en 84 le début
de l'émeute,
souvenir de ça, qu'est-ce qu'il dit Éloi Machereau en cassant l'urne, en disant vous avez fait une immigration massive de blancs chez nous, vous nous avez enlevé, volé notre majorité, donc vos urnes en tant que représentation démocratique électorale et de chiffres et de statistiques ne valent rien.
Vous l'avez rencontré, Éloi Machereau?
Oui, je l'ai rencontré, Éloi Machereau, et d'ailleurs ça m'a beaucoup troublé parce que c'est un homme dur, hein. Éloi Machereau, un homme dur, un militant très fort, et je l'avais rencontré la dernière fois, c'était du côté de Canala d'ailleurs, dans l'herbe, dans la campagne, on était assis dans l'herbe, il y a une espèce de campement sauvage, comme ça arrive très souvent en Nouvelle-Calédonie, et il y avait un feu, et je parle avec lui, je fais l'entretien, je fais l'interview, il était tard le soir, et je lui dis, bon, je dois partir pour envoyer mon article, mais on se retrouve là dans les jours qui viennent, mais je lui dis, où? Et il me dit, ah tu sais, dans cette vie, on ne sait jamais si on se retrouvera et où. Le lendemain, il était abattu par le gendarme du GIGN. Et c'est toujours comme ça en Calédonie. C'est-à-dire que vous avez une activité qui vous semble, entre guillemets, normale. Et puis tout d'un coup, il y a l'irruption dans votre monde, dans la communication, de quelque chose qui dépasse le cours du quotidien, votre habitude de la normalité, l'habitude des rapports que vous avez avec les gens.
Il faudrait, et nous ferons si vous voulez, une émission spéciale là-dessus. Il faudrait avoir le temps d'évoquer l'envoi par le président de la République de l'époque, François Mitterrand, d'Edgar Pisani sur place pour mener une mission de conciliation. Tout ça a été très long. Finalement, ça aboutira, mais nettement plus tard, au fameux accord de Matignon sous la houlette du Premier ministre Michel Rocard. Oui. On a l'impression que les deux grands leaders charismatiques, que ce soit Djibaou d'un côté ou Jacques Lafleur de l'autre, étaient des modérés d'une certaine manière dans chacun dans son camp.
Alors, c'est une terre d'exception. Il s'y passe des choses exceptionnelles. Partout, quand il y a eu la colonisation, la décolonisation et l'émeute, parce que l'émeute, toute la Calédonie était bloquée par des gaillards énormes qui avaient des brassards rouges, des casse-têtes, des clous sur des... C'était intéressant, bon. si vous voulez, et vous vous dites, bon, ben c'est parti. La violence,
ça va être la violence,
le sang
jusqu'à,
et l'indépendance par l'arrachement. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Jean-Marie Djibaou, qui était un ancien pasteur, qui était quelqu'un qui avait fait l'école religieuse, etc., qui avait une conscience philosophique incroyable, et Jacques Lafleur, un paternaliste, certes, mais qui avait quand même une certaine intelligence, les deux, et notamment Djibaou, ont compris qu'il fallait passer par autre chose. Et on a bénéficié de Rocard, Michel Rocard, et d'un gouvernement qui était Pisani, qui savait ce qu'était l'indépendance, qui savait ce qu'était la décolonisation, qui savait que les choses n'étaient pas inéluctables, qui ont voulu inventer un nouveau monde politique, une nouvelle convention politique. Et à force de discuter,
une c'était... Une sorte d'accord mutuel tout de
oui,
même a été trouvé.
L'indépendance ou bien la France ou bien l'indépendance, eh bien non, on va faire quelque chose de différent au milieu.
C'est d'ailleurs amusant, je me rappelle très bien, moi j'étais tout jeune, mais je suivais ça passionnément, et je me rappelle du discours du président Mitterrand qui était très à l'ancienne, si je puis dire. Ça faisait penser à l'époque où ministre de la Justice, il disait l'Algérie, c'est la France. Hein, on avait cette impression très, très dure. Et puis, à côté de ça, Edgar Pisani qui venait à la télévision avec des propos d'une modération extrême,
incroyable.
Presque l'inverse d'ailleurs.
Oui.
Tout ça représentant le même pouvoir et
oui,
le même
l'un
gouvernement.
L'un représentant le pouvoir et l'autorité de l'État, l'autre représentant l'adaptation pragmatique. Mais moi, je me souviens de... Dans ce haut-commissariat, les gens passaient des jours et des nuits à fouiller les textes, à demander des experts, etc., pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait trouver, inventer comme constitution politique pour que ce territoire ne sombre pas dans le sang, ne s'arrache pas de la France, peut-être, mais en tout cas une évolution. Et ils ont trouvé, puisqu'ils ont trouvé d'une part un accord pour 10 ans, qui a été renouvelé pour 20 ans, et maintenant...
Ça, c'est l'accord de Nouméa qui,
voilà.
Au bout de 10 ans, on a fait un nouvel accord,
voilà.
On s'est donné 20 ans de maturation, de réflexion, comment
on
veut-on dire.
On s'est donné 10 ans pour prendre une décision. Au bout de 10 ans, on a dit c'est pas suffisant. On a fait avancer les choses au niveau des droits sociaux, de l'économie, du nickel, de la prise en main des Kanaks, etc., de leur territoire. Et on a dit, bon, il faut 20 ans de plus. Et aujourd'hui, on arrive à l'échéance. C'est-à-dire que...
Le référendum, c'est pour 2018.
Hein. Alors, avant 2018. C'est ça qui est important. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on a vu ensuite comment traité de façon différente par Bernard Ponce, UVA s'est transformé en boucherie.
Oui, là, ça a
ça été... veut dire que sur ce territoire-là, la parole, mâcher la parole, si on la mâche assez longtemps, on trouve quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui peut aller vers un avenir, qui peut aller vers un devenir. Alors que si on envoie la force et les gendarmes, ça se termine dans le sang. Et
nous parlons donc aujourd'hui d'un sujet dont on peut dire qu'il est loin d'être clos. L'histoire est en train de se faire en Nouvelle-Calédonie, avec la présence de combien d'Européens, notamment de Français de métropole ?
On peut dire qu'il y a 60% de la population qui n'est pas Kanak, oui, voilà, aujourd'hui.
Mais il y a beaucoup d'Asiatiques, voilà, il y a des gens qui viennent...
Il y a des Fidjiens, de... des Wallisiens qui viennent, ce qui fait que ça a un peu compliqué la chose. Et toute la discussion, ça a été un grand problème démocratique. Est-ce que quand on a volé la majorité à un peuple, on doit se cantonner aux urnes qui, elles, ne fonctionnent que sur la majorité.
Mais je crois que les exemples d'un passé assez proche ont montré qu'on peut dépasser cette logique-là, voilà, et aller vers quelque chose d'un peu plus, voilà, subtil, d'une certaine manière. Et
si vous voulez, la Nouvelle-Calédonie, la terre de Nouvelle-Calédonie, chez les Kanaks, c'est un endroit où on dépasse la logique.
Merci beaucoup, Jean-Paul Marie. Ça donne envie de refaire des émissions avec vous sur cette Nouvelle-Calédonie.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Simon. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait que vous reveniez sur les origines du code-barre.
Le code-barre, c'est, vous connaissez ça par cœur évidemment, ça sert surtout à identifier des produits ou des références à une vitesse extrême. Alors, c'est parti au début du Morse, c'est le code Morse. Et on a simplement étiré les points de Morse pour faire ce code-barre. L'invention, elle est de deux étudiants américains qui s'appelaient Bernard Silver et Joseph Woodland. En 1949, vous voyez quand même que c'est pas aujourd'hui, ils déposent un brevet qui présente deux types de code-barre. Un avec des lignes verticales, celui qu'on connaît nous, et puis un autre qu'on appelait le code œil de bœuf qui présentait les cercles concentriques. Mais bon, ça n'a jamais été utilisé. Et puis, 3 ans plus tard, ils vont mettre au point ce qui est le plus important finalement, parce que le code barre en lui-même, c'est un des barres, mais ils vont mettre au point la machine de reconnaissance qui permet de lire le code barre. Il faudra des années avant que tout ça soit parfaitement abouti. Les codes barres sont utilisés dans un premier temps dans les compagnies de chemin de fer pour l'étiquetage des wagons de train et des marchandises de ferroviaire. Et puis en 1974, première apparition dans un supermarché. Le premier produit qui a été étiqueté avec un code barre, c'est un paquet de chewing-gum. Depuis les années 1990, c'est devenu universel.